9h22, finalement, il n'y a pas d'augmentation de taxes à Rivière-du-Loup. C'est un bel exercice qui, ma foi, pour le contribuable, paraît très bien. Et j'oserais ajouter à ça, après le mea culpa de l'administratif à la Ville dans le dossier des policiers qui a complètement éteint le dossier police à Rivière-du-Loup, quand tu arrives avec un budget qui ne t'annonce aucune augmentation de la taxe générale de base, ma grande foi du bon Dieu, t'as quasiment plus rien à te faire pardonner. Michel Morin est en ligne ce matin pour commenter son budget. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Morin, bon, on parle d'un budget qui ne comporte pas d'augmentation de la taxe de base.
Oui.
Je lisais ce matin, en faisant référence au budget de la Ville de Québec, que le taux d'inflation est à 2,4. Donc, non seulement vous n'avez pas augmenté les taxes, mais vous avez trouvé le moyen de diminuer la charge aux contribuables, en quelque sorte.
Oui, c'est important pour la capacité de payer. Quand vous regardez les taux de taxes un peu partout, là, c'est assez astronomique. Donc, on avait dit, dès le départ, en septembre, il y avait le déficit du régime de retraite. Le maire Labeaume en parle beaucoup, entre autres, dans le Soleil aujourd'hui, qui était un défi majeur, jumelé aux demandes de la police municipale. Donc, dans cette voie-là, on se dirigeait vers une hausse de taxes de 10%. C'est encore ce qu'on avait dans la dernière semaine. Et l'autre voie, avec la SQ, on est à un gel du taux de taxe.
Mais M. Morin, si ça vous fait rien, j'aimerais qu'on sorte un peu de la cassette. Là. Honnêtement, là, on l'a retenu, on l'a compris, qu'avec la Sûreté municipale, ça grimpait de 10%. La question est de savoir si le compte de taxe du contribuable à Rivière-du-Loup n'augmente pas, bien que le taux d'inflation soit de l'ordre de plus ou moins 2,4%. À quelle place qu'on a été capable de récupérer de l'argent, compte tenu de ce que, de toute manière, on aura à investir dans le fonds de retraite des employés municipaux?
Oui, ben c'est les éléments au niveau de la SQ, la gestion qu'on a dans chacun des services pour limiter ces hausses-là. Et on a même fait l'exercice pour 2013. Et en 2013, on s'enligne aussi vers un gel du taux de taxe. Donc c'est les efforts de plusieurs années qui viennent à porter leurs fruits. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens.
À moins que j'aie bien mal compris, M. Morin. On a dit dans les commentaires, suite à la rencontre de presse hier après-midi, pour justement détailler le budget là, et répondre sous embargo à certaines questions, j'ai quand même compris que ce qu'on sauvait avec la police municipale versus la Sûreté du Québec, c'est pas ça qui faisait que le compte de taxes n'augmentait pas. Dans le fond, cet argent-là qu'on sauve de la main droite, on le réinvestit dans le fonds de retraite des employés de la main gauche.
Oui, bien c'est ça qui nous enlève, parce que la grosse dépense majeure qu'on avait, on l'a soulevé dès le départ en septembre, on avait donc au niveau du déficit du régime de retraite, l'économie qu'on a au niveau de la SQ nous évite ces dépenses-là, ces hausses de dépenses au niveau du régime de retraite, et c'est ça qui fait qu'on peut arriver avec un gel du taux de taxe et donc une hausse seulement de 5 $ au niveau de l'égout et 7 $ sur le tarif des ordures.
Bien. Donc, ce que vous nous dites ce matin, c'est que toute la différence au niveau du budget entre une augmentation de taxes, des taxes qui demeurent égales ou des taxes qui baissent, ça repose essentiellement sur la police. Il n'y a pas une scène qui a été coupée ailleurs.
Ben il y a des éléments là qu'on a de revenus supplémentaires là, entre autres qui viennent du gouvernement au niveau de la croissance du rôle d'évaluation, les nouvelles constructions, on en a un peu plus que d'habitude. Donc sur le tableau des revenus, il y a un certain nombre de revenus supplémentaires qui nous permettent entre autres de payer un certain nombre de dépenses supplémentaires en plus du rabais au niveau de la SQ. Mais c'est parce que je revenais sur les chiffres dès le départ, parce que dès le début, on avait avancé ces chiffres-là, puis on nous avait dit que c'était pas les bons chiffres.
Ouais.
Et ça s'est toujours avéré que c'était les bons chiffres.
Ouais. Monsieur Morin, la dette de la Ville, est-ce qu'on parle de la dette nette lorsqu'il est question de 40 millions?
Oui, on parle de la dette nette qui est autour de 40 millions.
Il est quand même intéressant de voir que cette dette nette-là, quand je dis que c'est intéressant, là, de voir qu'entre 1999 et le budget de 2012, oui. elle est passée de 21 millions à 40 millions.
Oui.
Évidemment, entre le 21 millions qui date du dernier budget de Denise Lévesque,
oui.
il y a eu entre les deux Jean Damour et après Michel Morin,
oui.
mais on s'aperçoit que sur une décennie, la dette de la ville de Rivière-du-Loup est quand même montée en flèche.
Oui, la dette a monté, mais il faut toujours la voir par rapport aux revenus. C'est comme quand on a une dette, nous, sur notre hypothèque versus nos revenus. Ben, c'est pour ça qu'on parle d'un certain contrôle de la dette, parce qu'en 2007, on parlait de 33 millions. En 2012, 40 millions. Il y a un certain nombre de contrôles. La dette augmente moins vite que la valeur des actifs de la ville de Rivière-du-Loup. C'est ça qu'on appelle un certain contrôle de la dette. Si on avait davantage de revenus supplémentaires, comme en 2014, un beau 500 000 $ qui va venir de l'éolien, donc le prochain conseil va avoir des revenus supplémentaires, ben à un moment donné, quand on a assez de revenus supplémentaires, ça fait comme le gouvernement fédéral il y a un certain nombre d'années, puis on peut rabattre, faire des versements sur la dette. Je connais pas beaucoup de municipalités au Québec qui sont rendues là, mais aussi une autre différence qu'on voit de façon majeure, puis je le vois dans les autres villes, les gros investissements, entre autres au niveau de l'eau potable, nous à Rivière-du-Loup, c'est déjà fait. Il y a des villes qui parlent de centres culturels au niveau d'aréna. C'est une autre chose qu'on martèle depuis quelques années. Nous, les gros investissements, ils sont faits, ils sont inclus dans cette dette-là. Donc, dans les prochaines années, il n'y a pas d'élément majeur.
Bien. Quand on dit, par exemple, que cette dette-là, en quelque sorte, est garantie par les immobilisations,
oui.
Quand on parle d'immobilisation, on parle de quoi, au juste?
On parle de la valeur des bâtiments municipaux, la valeur, entre autres, de tout ce qui est propriété municipale, réseau d'aqueduc, etc. Quand on donne une comparaison, en 2007, toute la valeur des propriétés municipales, la maison de la culture, etc., ça valait 100 millions et la dette était 33 millions. Et en 2012, l'ensemble des avoirs de la ville de Rivière-du-Loup, donc on parle de 141 millions et la dette est 40 millions. Donc le poids, le pourcentage de cette dette-là est plus bas par rapport aux avoirs qu'on a. Donc, il y a quelques autres indicateurs aussi qu'on s'est donné là-dessus.
Est-ce qu'il y a encore des congés de taxes à la ville de Rivière-du-Loup pour certaines entreprises ou est-ce que tous ces congés de taxes-là sont venus à échéance et chacune des entreprises ou des propriétaires à Rivière-du-Loup paient son dû?
Oui.
Pleinement et entièrement.
Oui, oui, pleinement et entièrement, parce que les crédits qu'il y avait, donc, étaient sur un horizon de 5 ans. Et donc, l'ensemble des entreprises qui avaient bénéficié ça, donc, plus de 5 ans, alors, le paie entièrement.
Bien. Autre question, M. le maire, sur d'autres détails. Benoît Lévesque, qui était chef de police intérimaire, a été nommé.
Oui.
Quelques mois avant le transfert à la Sûreté du Québec,
mm-hmm.
a été nommé chef de police. Pendant tout le temps qu'ont duré les séances d'information pour le transfert des Bleus au Vert, chaque fois que la question a été posée concernant le chef de police, où on demandait « oui, mais pourquoi on ne nomme pas un chef de police? », la réponse était toujours la même. Étant donné qu'on passe à la Sûreté du Québec, on ne se voit pas dans l'obligation de confirmer un chef de police dans ses fonctions. Comment se fait-il que là, la réponse pour justifier la nomination de Benoît Lévesque soit tout le contraire et qu'on nous présente même la loi en nous
oui.
disant on a obligation d'avoir un chef de police? Pourquoi le double discours?
Bien, c'est que il y a un élément qui faisait partie de la stratégie de négociation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait 28 policiers, dont 3 cadres. Donc, quand on a discuté avec au niveau de la SQ, parce que dans la loi, on a un certain nombre de mois pour remplacer le directeur. Donc, à l'automne, on n'avait pas encore dépassé cette échéancier-là. Et dans nos négociations, il est apparu clairement qu'il y avait un élément important pour les policiers. Donc, il y avait un cas d'une policière qui était à temps partiel, que le syndicat réclamait qu'elle soit nommée de façon permanente. Quand on a parlé aux gens de la SQ, donc là-dessus, les gens de la SQ, eux autres, il n'y avait pas besoin de 3 cadres. Donc, Donc, ils préféraient, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde, si on nommait un autre policier permanent. Donc, on s'était gardé cette opportunité-là pour les négociations syndicales. Oui. Et une fois qu'on a avancé avec cet élément-là de négociation, donc au niveau policier, là, on a nommé le directeur, donc on l'a nommé officiellement.
Oui, mais vous dites que la Sûreté du Québec, vous avez dit, nous autres, on n'a pas besoin de trois cadres.
Oui. Ben parce que quand on regarde 28 policiers, quand Martin Leblond était directeur, on avait le directeur général qui était le chef, qui était Martin Leblond, puis on avait deux adjoints qui étaient Guy Bourgoin, oui, et Benoît Lévesque.
Oui.
Donc, quand Martin Leblond est parti, donc ça fait trois quarts, donc quand on parle de Martin Leblond et les deux directeurs adjoints, ça fait trois quarts. Quand Martin Leblond est parti, si on avait nommé un chef tout de suite, il aurait fallu engager un autre adjoint. Donc, on aurait eu trois quarts
de chômage. Mais on va s'entendre quand même, M. Morin, sur un fait, là. C'est que pour celui qui devient directeur de la police, en l'occurrence, M. Lévesque, c'est un beau cadeau de transfert, d'une part, mais d'autre part, le fait qu'on ne fasse aucune ouverture pour combler le poste, c'est-à-dire qu'on n'aille pas en appel de candidature pour combler le poste, ça vient confirmer que, dans les faits, ça devient un beau cadeau de transfert.
Ben c'est effectivement gagnant dans son cas, c'est gagnant pour tout le monde là-dedans, parce que imaginez-vous là ouvrir un poste là quand on sait que dans un poste ouvert à la grandeur du Québec, quand on sait que c'est que ça va être aboli dans deux mois, alors à ce moment-là c'est pas possible d'avoir des candidats. Puis à ce moment-là, si on avait un candidat de l'extérieur, on aurait trois cadres, on dépasserait le 28 qui était le nombre de policiers.
Mais je comprends.
Donc, c'est ça qui est compliqué. Non?
Je comprends, M. Morin, mais sans s'étirer là-dessus, là, pour le restant de l'avant-midi, on va quand même comprendre que ça s'appelle une passe sur la palette. Je vais comprendre que tout le monde est gagnant-gagnant.
Oui, exactement. Mais on s'entend là-dessus, c'est gagnant pour tout le monde. La SQ n'a pas trois cadres. M. Lévesque a une nomination. Et au niveau du syndicat, on a réglé le cas d'une policière. Et donc, il n'y a pas d'impact pour la population. C'est gagnant pour tout le monde.
Dites-moi donc, M. Morin, dans le journal Le Saint-Laurent-Portage, de je me souviens plus quelle date, mais ça fait à peu près un mois de ça, on montrait les cônes dans le parc du campus et de la cité en disant que pour faire l'installation de 30 cônes, ça avait coûté 100 000 $. Pourriez-vous me ventiler ça, s'il vous plaît?
Ça, j'ai pas ça à matin. Je pourrais vous revenir là-dessus au niveau de tout ce qui est éclairage. Là, il y avait des achats de matériel. Il y avait l'installation, puis il y a tout le système informatique pour la programmation de tout ça. Ça, j'ai pas ça du tout par cœur. Je peux vous revenir là-dessus avec une ventilation.
Dossier Harold Bouchard versus Sûreté municipale versus l'enquêteur Nelson Lepage. Votre service des communications à la Ville, Monsieur le maire, tente de nous faire croire que vous avez quasiment appris ça pas par hasard, là, mais mettons que c'est venu à vos oreilles, finalement, que le dossier s'était réglé. Je veux dire, il ne faut pas prendre le monde pour des valises, là. On ne me fera pas croire qu'à la Ville de Rivière-du-Loup, ça intéressait personne de savoir comment ça allait finir, cette affaire-là.
Non, ben c'est sûr qu'on posait des questions de temps en temps, parce que ce qu'il faut comprendre là-dessus, là, dans ces dossiers-là, là, ça se passe au niveau des assureurs. Or, ça relève du service du greffe avec Georges Deschênes. Or, on posait des questions de temps en temps, où est rendu le dossier, il n'y avait pas d'avancement. Et dernière semaine, M. Deschênes est venu m'informer, il y avait eu des développements au niveau de l'assureur, et c'est là qu'on a été avisé là-dessus, parce que on n'intervient pas, nous. On n'intervient pas dans ces règlements-là. C'est toujours de même.
Ça, je peux comprendre ça, M. Morin. En tant que maire de la ville, la question que je vous pose ce matin, est-ce que l'assurance, les assureurs de la ville ont versé de l'argent à Harold Bouchard? Parce que les assurances, là, c'est quand même nous autres qui les payent, là. Ça fait qu'on a le droit de savoir si notre assureur a versé de l'argent ou pas. Est-ce qu'il y a une compensation financière qui a été versée à Harold Bouchard?
Ben, moi, j'ai pas d'informations là-dessus. Les conditions du règlement là sont confidentielles et on n'en est pas informé par l'assureur.
Là, vous êtes en train de me dire, M. Morin, qu'il faut qu'on croie ce matin moi, je vis bien avec ça, là, mm-hmm. que l'entente soit confidentielle. Je vis bien avec ça, les ententes hors cours. À 99,9% du temps, c'est confidentiel. Mais là, vous dites qu'il faut qu'on croie ce matin que le maire de la ville ne sait pas si l'assurance a dû verser de l'argent.
C'est ce que je vous dis.
Il me semble que moi, je m'informerais.
Ben, c'est au niveau des, c'est au niveau de l'assureur où ça se règle. Puis quand les éléments sont confidentiels, c'est les parties qui sont impliquées qui ont ces détails-là. Et moi, c'est pas des détails que je, sur lesquels je vais fouiller. Comme dans n'importe quelle enquête, moi, je me mets jamais le nez dans une enquête.
Mais vous voulez pas savoir, M. Morin, si l'assurance que la ville paye au nom de ses citoyens, si cette assurance-là a versé, même si c'était 50 000 piastres à Harold Bouchard. Vous voulez pas le savoir?
Non, tous ces cas-là, ça se règle au niveau des assureurs. Moi, je me mets jamais le nez dans aucune enquête ni aucun règlement qui survit.
Mais ça tente pas non plus au chef de police de savoir si dans son service, finalement, il y a un règlement hors cours qui est intervenu et on a dû verser de l'argent parce que quelque part, on a dû reconnaître qu'on avait une part de responsabilité. Ça vous intéresse pas de savoir ça non plus?
Moi, je me mêle jamais de ces des enquêtes ni des règlements. On s'informe où est rendu le dossier, si ça progresse, y a-t-il des changements. Et c'est ce que j'ai su la semaine dernière, qu'il y avait un règlement dont les modalités sont confidentielles.
OK. Si on appelle Georges Deschênes, est-ce que lui est capable de nous dire ça, s'il y a eu de l'argent de verser, sans nous dire combien?
Ben Georges Deschênes, ce qu'il m'a mentionné, c'est qu'il y avait eu un règlement. Donc, l'assureur l'avait informé qu'il y avait un règlement, mais il n'a pas transmis les modalités de ce règlement-là.
Il y a une couple de semaines, la direction générale de la ville a convoqué la presse pour faire un mea culpa en disant ça a été tout croche, on a été complètement dépassé par la stratégie du syndicat. En termes de communication, on n'a vraiment pas été bon, on ne l'avait pas, on l'avoue, mea culpa, mea culpa. Est-ce que c'était une reconnaissance de faute de la part de l'administratif de la ville qui n'engageait d'aucune manière le politique? En d'autres mots, est-ce que vous vous sentez concerné par ce mea culpa?
Oui, tout à fait. On peut reconnaître des torts quand on en a. Personne n'est parfait, moi le premier. Et dans ces éléments-là, dans le cheminement du dossier, là, autant de ma part que dans certaines interventions qu'on a fait, il y a eu des choses qui ont été maladroites. Il y a aussi plusieurs choses qui n'ont pas pu être dites. Et donc, si ça avait pu être dit, ça aurait pu expliquer certaines hésitations. Mais quand on regarde l'ensemble des éléments, donc c'est autant au niveau politique qu'au niveau administratif, il y a eu des manques dans ce dossier-là.
Bien, pour en revenir au dossier de la police, M. Morin, qu'est-ce qui a fait que des négociations qui semblaient dans l'impasse totale, où les parties finalement ne se respectaient plus, qu'est-ce qui a fait que tout à coup, on est retourné à la table et qu'on a réglé presque, dans le temps de le dire, un dossier qui traînait depuis 2009?
Ben, je vous dirais, c'est qu'il y a deux choses. Il y a un, là, la Fédération des policiers municipaux, donc, qui menait toute sa bataille et qui fait la même chose à Saint-Adèle, un moment donné a lâché Rivière-du-Loup. Là, faut savoir, la police, c'est comme l'armée, hein. C'est que les gars et les filles ici, là, avaient des commandes, là, puis ils ont agi en bons soldats, là, puis ils ont fait la bataille qui était à faire de la Fédération des policiers municipaux. Donc, par rapport à certaines revendications. Mais il y avait des choses qui étaient différentes par rapport aux policiers ici. Et quand les gens ont réalisé aussi, là, c'est que dans des négociations, là, ça peut, on a le choix, là, de s'entendre ou ça peut s'étirer sur plusieurs années. Je vous donne le cas Shawinigan. Ça a pris 7 ans à régler le renouvellement de la convention et donc avec le passage à la SQ, et ça a coûté au-delà de 300 000 $ en frais d'arbitrage. À un moment donné, là, de part et d'autre, là, les éléments se sont alignés par rapport à ça. Ça nous tente-tu d'être dans un débat de 7 ans? Hein, de se regarder entre chien et chat, puis d'être dans un débat de 7 ans possible. Parce que c'est ça qu'on on s'entend ou bien on s'embarque ouais. dans une guerre.
Monsieur Morin, est-ce que je vais à la pêche avec la prochaine question à tout hasard? Est-ce que ça se pourrait que le ministère de la Sécurité publique, à un moment donné, vous ait dit, écoutez, là, entendez-vous parce qu'il n'y en aura pas de transfert à la SQ?
Non, il n'y a pas eu de pression, là, je vous réponds de directement à cette question-là. Il n'y a pas eu de pression versus le ministère par rapport à ça, parce que il s'est fait des transferts avec des accords, il s'est fait des transferts sans accord. Mais on comprend que pour la population, quand il se fait un transfert avec un accord, alors c'est beaucoup plus rassurant pour la population au niveau du service qui va être rendu.
Dernière question, biométhanisation, certificat oui. délivré, signé.
Oui.
Ça veut dire qu'en 2013, ça va se mettre en marche.
Ah, 2013, on devrait avoir des bacs. On a déjà de l'argent de côté. Ça vous coûtera rien pour avoir un autre bac pour la troisième voie, mettre les restes de table. C'est une excellente nouvelle. On en a eu plusieurs, donc, dans ces derniers jours, dont la biométhanisation, l'entrée ouest aussi, où on a une entente de principe avec une entreprise de Montréal. Alors, des fois, il y a des dossiers, là, ça prend quelques années. On sème, c'est long récolté, mais dans ces dossiers-là, puis au niveau du parc industriel aussi, 11 terrains qui font le processus, qui font l'objet de ventes actuellement, dont la plupart sont chez les notaires. Là. Donc, 2012 là, va être certainement mieux que 2011.
M. Morin, parce que vous me donnez toutes sortes d'idées, là, concernant l'ouest de la ville, les terrains qui sont là-bas, au moment où on se parle, là, oublions l'entente de principe,
oui.
parce que c'est une entente de principe n'est pas signée.
On devrait signer ça là, en janvier. Là.
Bon, OK. Les terrains qui sont là,
oui.
dans la partie qui a été réaménagée, ils
oui.
appartiennent à qui au moment
ministère
où on se parle?
Ministère des Transports du Québec. Ça appartient au ministère des Transports et ça, il y a eu bien des démarches avec le ministère par rapport au prix, par rapport aux conditions de versement, et ainsi de suite.
Mais on était censé faire de l'argent avec ces terrains-là?
Oui, bien, au niveau du ministère, donc l'argent au niveau des terrains, donc revient au ministère parce que c'est ces terrains. Donc,
mais vous nous aviez dit qu'on allait faire de l'argent, qu'était là le côté avantageux de l'affaire, il est là, on va faire de l'argent après.
On va faire de l'argent quand il va y avoir des commerces qui vont s'installer parce qu'ils vont payer des taxes. Mais au niveau des revenus des terrains, ça va au ministère des Transports.
Mais à quelle place que ça a changé, ça? À un moment donné, les terrains, ils devaient nous appartenir, c'est nous autres qui allaient les vendre.
Non, bien c'est ça, on les a vendus, puis on les vend encore. On en a vendu toutes sortes de parties en avant de
ouais, mais vous dites
fort,
que c'est au
etc.
ministère.
Mais on les vend pour le ministère.
Ah, donc ça ne nous rapporte pas une scène.
Non, bien, ce que ça nous rapporte, c'est le commerce qui s'est installé
ça...
à côté de Raymond Chabot.
Non, non, si on est... Monsieur Morin, si on est capable de comprendre ça,
oui.
peu importe à qui le terrain appartient, c'est dans les limites de la ville de Rivière-du-Loup. Là.
Oui, alors, c'est
on,
ça.
On comprend ça. OK, biométhanisation, ouais, ça fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Merci, Monsieur Morin.
Ben, merci beaucoup.
Et bonne journée. 9h44, c'était le maire de Rivière-du-Loup, Michel Morin. Il y en avait un autre, mais à la dernière minute, je l'ai complètement oublié. Pas grave. On a posé pas mal de questions. Je peux pas croire que dans l'affaire Harold Bouchard, que ça finira pas par sortir, ça. Il me semble que les citoyens de Rivière-du-Loup, dans toute cette saga-là, qui a fait bien des dommages. Bien des dommages. Nelson Lepage, en tant qu'enquêteur, il n'a pas dû trouver ça le fun. Harold Bouchard, en tant que accusé. Tu sais, quand tu es accusé d'agression sexuelle, là, je regrette, là, mais c'est pas la même affaire que d'être accusé d'avoir... Fais pas, là, brûler un stop, puis de pas avoir payé ta contravention, mettons, là. Pas pareil. Il y a eu bien des dommages là-dedans. Il me semble que la ville de Rivière-du-Loup devrait au moins être capable de livrer le minimum. Est-ce qu'on a eu à reconnaître des torts là-dedans? Oui, non. Est-ce qu'on a eu à verser de l'argent là-dedans? Oui, non. Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? À quelque part, me semble que... C'est pas pantoute. L'autre gros dossier sur lequel on attend du développement qui tarde tellement, c'est le rapport du coroner concernant l'incendie du 40 Frontenac. À un moment donné, ça finira bien par sortir, mais il faudra toujours se souvenir que dans cette affaire-là, il y avait trois versions. Il n'y avait pas rien qu'une, il y en avait trois.